Je donne la parole à Gervaise Tassis de notre Université commune de Genève.
J'ai intitulé ma communication « Concurrence des mémoires de la Révolution russe » et je vois aujourd'hui que j'ai péché par optimisme et que j'ai été très téméraire lorsque j'ai proposé pour sujet de ma communication la concurrence des mémoires de la Révolution. Je pensais alors lire des textes littéraires récents qui parleraient des révolutions de 1917 et les croiser, les mettre en regard des œuvres écrites sur le même sujet, par les écrivains émigrés dans les années 20. J'imaginais alors que je trouverais dans ces textes contemporains des traces des lectures des romans émigrés, que les auteurs contemporains feraient d'une façon ou d'une autre référence à leurs aînés et qu'il y aurait ainsi moyen de repérer un dialogue intertextuel. Or, le résultat est tout autre. Il n'y a tout d'abord, du moins à ma connaissance, pas de texte récent entièrement consacré aux révolutions de 1917, si ce n'est le premier tome d'une trilogie de Boris Akounin, Aristonomie, publiée en 2012. Et surtout, pas de dialogue intertextuel avéré avec les textes émigrés. Les nombreux romans publiés ces dernières années, qui traitent du passé russe au XXe siècle, ne mentionnent qu'incidemment les révolutions de 1917 et n'en font pas l'événement déterminant qui expliquerait à lui seul la suite de l'histoire. Certes, la révolution est souvent le point de départ du récit, mais d'autres événements sont plus importants pour les héros. Si bien que s'il s'agit ici encore de la concurrence des mémoires de la Révolution russe, c'est non plus au sens premier du terme, au sens de convergence, de rencontre dans le temps, mais au simple sens de coexistence dans l'espace littéraire russe, voire dans la mémoire culturelle russe. Si j'avais utilisé concurrence au sens de rivalité, c'est bien sûr aux romans soviétiques que j'aurais confronté les romans émigrés. Il s'agit donc ici de confronter deux discours sur la Révolution, celui des écrivains émigrés et celui des auteurs russes contemporains, de réfléchir à ce qui les distingue et finalement à ce qu'est aussi pour nous aujourd'hui, lecteurs de 2017, le corpus émigré. La littérature de la première vague de l'émigration russe du XXe siècle est née des révolutions de 1917. Qui plus est, ses premières œuvres traitent de ces mêmes révolutions, des événements dont viennent d'être témoins leurs auteurs. Ainsi, c'est dès 1919 qu'Alexei Tolstoï, déjà nommé ce matin, s'attelle au roman « Le chemin des tourments », titre qu'il donnera par la suite à la trilogie qu'il achèvera en Russie soviétique. Le premier récit d'Ivan Bounin, publié en 1924 dans les Annales contemporaines, est également un récit sur la Russie en révolution, « Nisrochne Vesna ». Quand ils arrivent en France, les auteurs aux expériences aussi diverses que Marc Aldanov, Ivan Chmilyov ou Boris Zaitsev relatent eux aussi, aussitôt, ce qu'ils viennent de vivre en Russie avant leur départ pour l'exil. Chmilyov, arrivé à Paris en 22, y écrit aussitôt « Le soleil des morts », dont un extrait est même traduit en français dès 1923 dans le Mercure de France. La publication du premier roman écrit par Zaitsev en exil, « La guirlande dorée », « Zolotoy Uzor », commence dès 1923 dans les Annales contemporaines, un an à peine après son départ de Russie. Dans le cas de Marc Aldanov, il ne s'agit d'abord pas de roman, mais d'essais. Le premier est publié en 1919, il a été écrit directement en français, « Lénine ». Il va d'ailleurs connaître 5 réimpressions en une seule année. Et le second, en 1921, 2 révolutions, la Révolution française et la Révolution russe. À la fin des années 20 sont publiés ce qui sont probablement deux des œuvres littéraires les plus intéressantes sur la Révolution russe, Zirlionna Rus, la Russie entourbillonnée de Remizov, et Sivtsevrajak, le roman de Mikhail Assargin. Il était naturel que ces écrivains aient eu envie de partager leur vision de la Révolution, leur expérience, sans parler du fait qu'ils voulaient profiter de leur liberté pour exprimer ce qu'ils estimaient être la vérité sur des événements, de leur point de vue, mal compris ou mal interprétés parfois en Europe. Ils ont donc éprouvé le besoin de réfléchir aux bouleversements que la Révolution avait induits dans leur vie. Ils se devaient de comprendre ce qui leur était arrivé ainsi que ce qui était arrivé à la Russie. La littérature de la première vague de l'émigration est donc née de la Révolution et en est indissociable. La grande majorité de ses œuvres, au demeurant, illustrent parfaitement la complexité des événements, leur ambivalence, la double lecture qu'on peut en faire. Il me semble en tout cas qu'elles rendent bien compte de la nature de la Révolution, élan utopique et sincère d'hommes et de femmes en quête de justice sociale, en même temps que destruction de l'ordre établi dans le chaos et la violence. L'ensemble des œuvres écrites par les émigrés constitue ainsi un corpus non dénué d'autocritique qui frappe par son impartialité et reste une source fiable pour tenter de comprendre ce qui s'est alors passé en Russie. Ces romans sont le réceptacle d'une partie non négligeable de la mémoire émigrée sur les révolutions de 1917. Alors, ceux que je cite ou que je vais citer sont des romans écrits par des auteurs qui ont tous applaudi à la Révolution de février, des auteurs qui avaient même, pour certains, travaillé à son avènement. Cela dit, il est évident qu'il y eut des romans moins objectifs que ceux que je cite, que les émigrés n'ont pas pu tout dire de la Révolution. À la faveur de la perestroïka, ces œuvres, interdites de publication sous le régime soviétique, sont peu à peu rentrées en Russie, selon l'expression consacrée. Elles ont enfin atteint leurs lecteurs, elles ont eu du succès, lequel pour certaines ne se dément pas. On les a lues alors souvent comme un témoignage véridique, en y cherchant une vérité longtemps occultée. La Révolution n'y était pas présentée comme le début d'une marche glorieuse vers un avenir radieux, mais comme une époque de chaos, d'anarchie, de révolte russe, entre guillemets, durant laquelle s'était déchaînée une violence aveugle, avec le plus souvent la mort pour tout horizon. Aujourd'hui, 100 ans après la Révolution, la littérature russe s'intéresse au passé, à l'histoire du XXe siècle en Russie. Ce ne sont plus des témoins qui s'interrogent, mais leurs descendants, petits-fils, arrière-petits-fils, des contemporains des révolutions de 1917. Ils jettent un regard neuf sur le siècle écoulé. Toutefois, et comme il se doit, leur questionnement porte avant tout sur la Russie du début du XXIe siècle, sur la Russie dans laquelle ils vivent. Ils n'ont pas pour projet de peindre la Russie de 1917 et d'y chercher, comme Alexandre Solzhenitsyn dans La Roue Rouge, le moment précis où tout a déraillé, mais bien plutôt d'apporter leur voix au débat actuel sur la question du passé. Tous les auteurs que je cite se rejoignent ainsi en ce qu'ils parlent tous de la Russie de leur présent. Les émigrés racontaient sa destruction, les auteurs contemporains évoquent son problème de mémoire. J'ai donc finalement regardé si la manière dont on parlait de la Révolution dans les romans actuels se distingue ou non, et comment, de celle des romans émigrés. N'ayant pas trouvé de lien intertextuel avéré, même pas de réemploi des métaphores les plus communément utilisées, telles celles de la tempête de neige, de la musique, de la Révolution, j'ai tenté de voir si les écrivains émigrés avaient finalement pu faire passer leur vision, leur expérience de la Révolution dans la littérature russe contemporaine. Force est de constater qu'on mesure plutôt un décalage entre deux conceptions de la Révolution. Alors, ce ne sont que de premières conclusions et même plutôt des remarques tout à fait provisoires d'une lecture qui doit être poursuivie parce que je n'ai en fait lu qu'une douzaine de romans actuels. Donc ce sont des romans tous extrêmement différents les uns des autres, en tout cas au niveau de la forme, écrits par des auteurs très différents les uns des autres. Certains sont âgés, sont déjà reconnus. La doyenne de ma liste, c'est Ludmila Ulitska avec le roman Liesnitsa Yakova, l'échelle de Jacob. D'autres plus jeunes sont nés au début des années 80. Et malgré tout, de ces romans très différents les uns des autres, semblent, à première vue, se dégager un point de vue commun, quoique très général, sur la Révolution. Et donc, en quoi se rejoignent et en quoi diffèrent ces deux corpus ? Il faut souligner pour commencer que la Révolution n'est jamais l'événement central dans ces romans récents. Pour ceux que l'on peut qualifier de romans familiaux, la moitié d'entre eux, au sens où ils retracent la vie d'une famille tout au long du XXe siècle, le récit commence le plus souvent en 1917. Par exemple, dans le roman d'Akounin, Aristonomie, le seul centré sur la Révolution dans ma liste, le récit commence le 27 janvier 1917, donc presque un mois, tout juste, avant le début de la Révolution de février. Dans le roman de Slapovsky, Neizvestnosti, roman vieka, je crois, inconnu, donc l'inconnu, roman du siècle, la première entrée du journal de Nikolai Smirnov est datée du 17 décembre 1917. Et quand le récit ne débute pas en 1917, il remonte tout au plus jusqu'à 1905, comme dans le roman d'Ulitska. Et dans ce roman, c'est au demeurant l'année 1911 qui est nommée la plus importante. C'est le titre d'un des chapitres, l'année la plus importante. 1911, pourquoi ? Parce que c'est celle de la rencontre des grands-parents de la narratrice. Tout ça pour dire que l'année 1917, donc, n'est même pas l'événement majeur pour les personnages qui l'ont vécu, et encore moins pour la narratrice, leur petite-fille. L'année 17 n'est même parfois presque pas mentionnée ou évacuée très rapidement du texte. Dans le roman de Maxim Kantor, Krasny Svet, par exemple, cela est motivé par le fait que l'un des héros principaux rentre en Russie après la Révolution. La Révolution n'est donc qu'un événement parmi d'autres et s'inscrit dans le temps long. Ses conséquences sont beaucoup plus importantes que son déroulement. On ne montre d'ailleurs jamais son déroulement, tout comme dans les romans émigrés d'ailleurs, et aucun personnage historique ne figure dans ces romans. La Révolution semble toutefois marquer implicitement le début d'une nouvelle période. Alors que les écrivains émigrés ont en général montré que la Révolution était un produit de la Première Guerre mondiale, les auteurs contemporains, même quand ils évoquent cette Première Guerre mondiale, n'insistent pas du tout sur cette séquence. La Révolution n'est donc pas dans leur roman cet événement énorme, aussi espéré qu'inattendu au moment précis où il se produit, qui commençait dans l'euphorie, s'est poursuivi sur un mode tragique. Elle ne semble pas non plus marquée de rupture radicale avec la Russie du passé. Même si, comme dans les romans émigrés, comme les romanciers émigrés cités, donc aucun auteur contemporain ne défend ni même n'évoque la Russie tsariste, celle de l'ancien régime. Sur ce point, tous les romans s'accordent, ils sont tous exempts de nostalgie pour la Russie impériale, à tel point que même l'officier blanc du roman de Leonid Yusefovitch Zimnia Daroga, La route hivernale, n'est pas monarchiste. Le romancier prend soin de le préciser à plusieurs reprises et dépeint le général Pipilyaev comme un véritable démocrate, soucieux que le peuple russe puisse enfin prendre en main sa destinée. Il est évident, bien évident, que ce sont les connaissances historiques des auteurs contemporains qui sont la raison principale de ce changement d'échelle, si l'on peut dire, de la Révolution. Ils savent tous que la Révolution a été suivie de nombreuses années durant lesquelles la violence n'a pas diminué et que sa fin n'a pas marqué celle des souffrances en Russie. De ce point de vue, ils accordent une importance majeure à la guerre civile. Et c'est la guerre civile qui est plus importante en fait que la Révolution. Dans les romans de Sergueï Lebedev, par exemple, un jeune auteur né en 1981, c'est l'expérience de la guerre civile qui façonne les destins. Ainsi, la grand-mère du narrateur vivra-t-elle toute sa vie sous l'emprise d'un sentiment obsédant de peur qui ne l'a jamais quittée depuis qu'elle a vu de ses propres yeux les corps suppliciés de jeunes gardes rouges dans la région de Tambov en 1921. D'une façon générale, c'est dans tous ses romans la guerre civile qui est le théâtre d'une violence sans bornes et non la Révolution. Paradoxalement, Yusefovitch insiste précisément sur l'absence de cruauté et de violence gratuite chez ses deux héros durant l'épisode de la guerre civile en Yakoutie qu'il raconte dans son roman documentaire. Et Pipilyaev et Strot sont de ce point de vue des exceptions notables, ce qui induit une conception précise de la Révolution. Elle est présentée dans ce roman comme l'affrontement de deux idéalismes dont les porte-paroles sont des jouets soumis à un destin aveugle. La Révolution y est une tragédie au plein sens du terme imposée à la Russie. Donc, sauf dans le roman de Yusefovitch, tous les personnages sont fictifs et seul Boris Akounin met en scène un bolchevique convaincu. La Révolution n'est pas du tout spécifiquement bolchevique. Mais ce qui frappe, c'est que comme dans les romans émigrés, les personnages ne se battent pas. Il n'y a pas de combattants. Ils ne se battent ni pour ni contre la Révolution. Ils la subissent. Ils sont extraordinairement passifs. Comme dans les romans émigrés, la Révolution fait irruption dans leur vie et la bouleverse. Pour autant, ils n'en sont pas toujours des victimes. Ils traversent évidemment la période du communisme de guerre, connaissent le dénuement, la misère, perdent des proches, parfois énormément de proches, mais s'en sortent finalement plutôt bien. En tout cas, aucun des héros ne meurt pendant ou à cause de la Révolution. Le plus passif de ces personnages est sans doute le paysan Smirnov du roman de Slapovsky, ce qui s'explique sans doute en premier lieu par le titre et l'idée qui sous-tend le roman, selon laquelle les Russes seraient soumis à l'inconnu, peut-être de tout temps, leur histoire formant une ligne brisée d'événements sur lesquels ils n'ont aucune prise. Et même ce personnage gagne finalement à la Révolution. À la fin des années 20, il vit beaucoup mieux qu'avant 1917. Il a quitté son village, il a pu s'instruire, il a un métier qui l'intéresse, il a diversifié ses intérêts, fondé une famille. Alors que les héros des romans émigrés n'ont eux qu'une seule alternative, la mort, des mains du bourreau bolchevique ou le suicide, l'émigration n'en étant souvent qu'une variante. les intelligentes, en effet, n'ont d'autre choix. Parce que tous les héros des romans émigrés sont des intelligentes. Et à l'exception de la jeune Tania, du roman de Mikhail Sargin, les intelligentes de droite comme de gauche, pour reprendre les termes d'Aldanov, qui refusent toute compromission avec les bolcheviks, n'ont pas d'autre avenir qu'une mort soudaine ou lente, précédée de dilemmes moraux. Par exemple, peut-on transiger avec sa conscience, trahir ses valeurs pour continuer à vivre dans la Russie bolchévique? S'il n'en va pas de même pour les héros des romans contemporains, c'est, semble-t-il, dû au fait que leurs personnages ne sont pas tous des intelligentes et que surtout les narrateurs contemporains, parce que très souvent il s'agit donc d'un regard porté sur le XXe siècle depuis aujourd'hui, donc d'un récit conduit par un narrateur contemporain, parce que ces narrateurs contemporains sont le fruit de la mixité sociale permise, voire instituée par la Révolution. Et je pense là à nouveau tout particulièrement au roman de Sergueï Lebedev, dans lequel le narrateur commente à plusieurs reprises sa double origine sociale, noble par son père, paysanne par sa mère. Les deux branches de la famille ont été décimées, les paysans victimes de la collectivisation, les ci-devant pétersbourgeois morts pendant la guerre civile ou le blocus, sans compter toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale, dont ses deux grands-pères. Mais il a le sentiment très net d'être l'héritier de cette histoire commencée avec les révolutions de 1917. Il est en fait question de deux interprétations différentes de la révolution induite par la distance temporelle qui sépare l'écrivain de l'événement. Alors que dans les années 20, sous le coup de leur vécu, les émigrés dénoncent un événement monstrueux et mortifère, les écrivains contemporains, forts de leur connaissance de l'histoire du siècle, relativisent l'importance qu'ils accordent à la Révolution. Si chacune des familles décrites a bel et bien souffert, elle n'a pas forcément souffert pendant la Révolution, mais toujours après, durant la période stalinienne. Et c'est même le seul point commun que l'on puisse trouver à tous ces romans. Fort différents. Donc ils ont tous des personnages où tous leurs personnages sont victimes de la terreur. Chaque famille est touchée, que l'un ou plusieurs de ses membres soient exécutés, envoyés au goulag, déportés, frappés de mort sociale. On pourrait en conclure que c'est la période stalinienne qui dépasse en horreur celle de la Révolution dans ses romans et que le questionnement porte précisément et avant tout sur cette même période stalinienne. Aux questions pourquoi, comment, des témoins exilés, s'est substituée aujourd'hui celle de savoir comment vivre avec un tel passé, avec un tel héritage, comment l'accepter pour mieux le dépasser. D'événements inédits et traumatisants qui auraient détruit la Russie et sa culture séculaire, la Révolution est devenue un événement irrécusable avec lequel il faut compter parce qu'il n'a pas été entièrement négatif. Pour finir, je dirais que s'il n'y a pas, semble-t-il, de dialogue intertextuel avec les romans des écrivains émigrés, c'est peut-être parce que l'heure n'est pas à un réexamen de la Révolution en Russie, peut-être pas encore, ou parce que précisément, les romanciers émigrés, lorsqu'ils parlent de la Révolution, parlent peut-être de février justement, comme on l'a dit ce matin, et voilà, c'est peut-être une question liée à l'interprétation de la Révolution de février par opposition à la Révolution d'octobre. En tout cas, les romans que j'ai lus ne s'interrogent pas sur la valeur de la Révolution, sur son bien fondé. Ils ne l'interprètent d'ailleurs même pas. La guerre civile et plus encore la terreur, les années donc durant lesquelles Staline était au pouvoir, la dépassent très nettement en importance. Et, semble-t-il, la littérature reflète ainsi les questions que se pose la société russe contemporaine. C'est donc avant la question de la Révolution, celle de l'héritage stalinien qui peut-être la préoccupe dans un premier temps. Quant aux romans écrits par les exilés, eh bien, ils ont acquis aujourd'hui une valeur testimoniale indubitable. Ce sont des textes littéraires, bien sûr, mais aussi des témoignages dépositaires de la mémoire des vaincus qui peut-être n'intéressent pas aujourd'hui au premier chef ou n'intéresse plus. Et on peut se rappeler à leur propos ce que Marc Aldanov a dit à l'historien Alphonse Aulard, grand spécialiste de la Révolution française. Seuls peuvent comprendre la Révolution française ceux qui en ont vu de leurs yeux une autre. Ces textes sont donc pour nous autant des romans que des témoignages, alors que les textes contemporains débusquent les traces du passé soviétique dans la Russie actuelle, invitent à en prendre pleine conscience pour pouvoir se délivrer de leur influence pernicieuse et peut-être enfin tourner la page de 1917. Merci.